Et on retrouve tout de suite Kabbalat Shabbat, une émission qui vous est présentée par Bernard Abouaf.
Bonjour à tous, Bernard Abouaf au micro. On se retrouve comme chaque vendredi pour Kabbalat Shabbat, une grande émission de Torah et de pensée juive. Et nous sommes en ligne avec Rav Eli Lemel. Rav Lemel, bonjour et Shabbat Shalom.
Bonjour et Shabbat Shalom.
Rav Lemel, on avance dans l'étude de notre parasha, ce passage que nous lisons dans nos communautés chaque semaine. Et donc on arrive maintenant à Chukat. Chukat qui est connu pour être le passage le plus incompréhensible, incroyable et totalement déroutant, le plus incompréhensible. C'est l'histoire de la vache rousse. Et ben d'ailleurs, vous allez essayer de démêler justement un petit peu cette idée. C'est d'autant plus intéressant que vous pensez que c'est vraiment la quintessence de la relation avec Dieu, mais aussi ça porte en soi la quintessence de la relation avec l'autre. Donc on est vraiment dans une paracha fondamentale.
Exact, on est dans une paracha. C'est vrai que l'histoire de la fameuse paradouma de la vache rousse, alors elle démarre sur la baisse de Kouas, et rappelons-nous que le texte nous dit « Zot chukat haTorah », voici la loi par excellence de la Torah, et donc on nous donne une loi qui a trait aux règles de pureté de l'impureté, comment est-ce que l'impureté disparaît, quand on était en contact avec la mort, enfin voilà, il y a quand même des choses qui sont très complexes dans cette loi. Et au-delà de ça, et c'est ça qui est très surprenant, le texte nous dit, mais sache que celui qui est capable de comprendre, de respecter, pardonne-moi justement, de ne pas comprendre, respecter cette loi, c'est comme s'il avait accompli la totalité de la Torah. Donc il va falloir essayer de comprendre un petit peu qu'est-ce qu'on nous raconte là. D'abord, ce n'est pas une loi qu'on va accomplir nécessairement, puisqu'elle existe qu'à l'époque du Temple. Et puis, pourquoi elle représente véritablement la loi de la Torah par excellence? Alors, on rappelle en premier lieu que, il y a trois grandes catégories de lois à l'intérieur de la Torah. Il y a ce qu'on appelle les mitzvot, que j'appellerais les commandements de type religieux. Il y a les mishpatim, il y a ces fameuses règles qui permettent à la société de fonctionner, ce que j'appellerais aujourd'hui les lois civiles. Et puis après, il y a ce qu'on appelle les chukim, qu'on traduit de manière générale par les statuts, TS bien sûr, et qui sont ces lois dont on ne peut pas véritablement comprendre le sens, en tout cas, même si on arrive à appréhender certaines notions, mais jusqu'au bout, on n'y arrive pas. Alors, les lois compréhensibles, telles que le Shabbat, celles-là, tout le monde peut les comprendre, les lois qui sont liées aux fêtes, à la prière, parce qu'il y a énormément de notions qui sont évidentes, le repos, le retour à soi, la conscience de la présence de Dieu dans l'univers, ne pas produire, se rappeler de la sortie d'Égypte, des événements, de la notion de liberté, tout ça c'est relativement simple à intégrer, même si c'est évidemment des choses beaucoup plus profondes. Les mishpatim, c'est tout ce qui a trait aux relations interpersonnelles, c'est fondamental, mais par contre là où ça devient complexe, c'est ces fameux chukim, comme par exemple l'interdiction d'avoir des habits dans lesquels il y a du lin et de la laine. Alors bien sûr, il y a des symboliques. Qu'est-ce que représente le lin? Qu'est-ce que représente la laine? Ce sont deux notions qui sont a priori complètement opposées. Il y a plein de choses. Mais est-ce que vraiment on a besoin de faire ça? Et puis il y a cette fameuse loi de la vache rousse. Alors là, celle-là, le roi Salomon va dire « Aniar martir hakma virocho kamimani, je pensais être sage ». Mais je suis loin de la sagesse, car comprendre cette loi dans son essence même, il ne va pas y accéder, ce n'est pas dans le domaine du possible. Mais on dit, voilà, ça c'est la loi. Alors, il y a peut-être ici une notion qui est capitale. C'est la loi dont je sais que je ne pourrais pas comprendre le sens, et je l'accepte. Donc elle est l'expression de la relation de confiance que j'ai vis-à-vis du Créateur de l'univers. Parce que si je suis capable d'accepter quelque chose que je ne pourrais pas véritablement comprendre jusqu'au bout. Non seulement je l'accepte, mais je la pratique. Ça veut dire que j'ai une relation de réelle confiance avec le Créateur de l'univers et une relation d'amour. Parce que d'abord, je sais que si cette loi a été donnée, ce n'est pas pour lui, mais c'est pour moi. Et je ne peux imaginer d'une quelconque manière que Dieu me propose de faire ou de ne pas faire certaines choses et qui pourraient être éventuellement toxiques. La question, elle est évidente. C'est comment est-ce qu'on arrive à retraduire ça dans nos réalités à nous, dans la relation à l'autre. Parce que n'oublions pas que lorsque la Torah nous donne ces lois-là, qui sont vecteurs aussi de notions fondamentales, on doit être capable de s'interroger sur la manière dont on pourra les retraduire dans notre réalité à nous, au quotidien, dans la relation à l'autre. Et c'est la question que je pose, comment est-ce qu'on fait pour construire une relation de confiance profonde et réelle avec l'autre et comment est-ce qu'on accepte que l'autre nous demande de faire quelque chose, même si on ne le comprend pas totalement. Première chose, évidemment, c'est de savoir que quand on est face à Dieu, Dieu n'a pas besoin de nous imposer quoi que ce soit pour exister. Il existe. Et c'est un petit peu la même chose dans le monde des relations humaines. Si j'ai besoin d'imposer à l'autre pour me sentir exister, ça veut dire que je n'ai pas encore commencé à exister par moi-même. Et une relation construite, c'est une relation dans laquelle je n'ai pas besoin d'un positionnement particulier à l'intérieur de celle-ci pour me sentir exister. Pourquoi? Parce que j'existe déjà. Mais comment est-ce qu'on construit ça? Comment est-ce qu'on le met en place? Comment est-ce qu'on se sent exister réellement? Et là-dessus, eh bien, nos maîtres vont ouvrir à une réflexion passionnante. Qu'est-ce qui fait que on se sent bien à l'intérieur de notre vie? C'est quoi l'élément qui nous nourrit profondément? Eh bien, ce qui nourrit réellement l'être, disent nos maîtres, c'est de savoir qu'il est le support d'une réalisation, de savoir qu'il a réussi à être créateur de quelque chose. Et la première chose que l'on crée dans l'existence, c'est le bien-être de l'autre. Savoir qu'on peut, à travers ce que l'on est, créer chez l'autre une sensation de bien-être et quelque chose qui nous nourrit et qui crée chez nous un sentiment de joie profond. Regardez, un exemple très simple. Une maman. Une maman, au moment où elle donne à manger à son enfant, au moment où elle s'occupe de lui, ce bébé, il exprime une satisfaction, il exprime un bien-être avec des postures, des mimiques, ce que vous voulez, il ne parle pas encore. Mais regardez comment une mère est profondément remplie lorsqu'elle voit qu'elle a réussi à générer ce bien-être chez l'enfant dont elle s'occupe. Ça crée une sensation incroyable. Et ça va peut-être être l'élément sur lequel on devrait travailler pour réussir à rentrer et à construire une relation dans laquelle je n'ai pas besoin de dominer l'autre pour me sentir exister. Alors il faut apprendre à construire chez soi un sentiment de bien-être qui se met en place à travers le fait qu'on est le support du bien-être de l'autre. On est dans un monde qui ne fonctionne pas de cette manière, très sincèrement. En tout cas, pas énormément. On est dans un monde dans lequel c'est le positionnement vis-à-vis de l'autre qui nous permet de nous sentir exister, voire même l'opposition qui crée une forme de position et qui nous donne l'impression d'exister. Il n'y a rien de pire que d'avoir besoin de s'opposer à l'autre, de lui opposer un argument, de lui opposer ce qu'on veut lui imposer pour pouvoir, à un moment, avoir l'impression qu'on existe. Ça, c'est peut-être le point sur lequel on peut travailler. Dieu n'a pas besoin de se positionner par rapport à l'humain parce qu'il existe. Et donc, c'est la raison pour laquelle, eh bien, au moment où il nous demande de faire certaines choses, même si on ne comprend pas nécessairement, mais dans la mesure où on est profondément conscient que le but de cette chose, ce n'est pas lui, mais c'est nous, on est capable de l'accomplir, on est capable de le mettre en place. C'est ce qu'on doit essayer de construire dans une relation à l'autre. On va essayer d'aller un tout petit peu plus loin. Cette idée-là, de découvrir la joie profonde qui peut nous habiter lorsqu'on était le support au bien-être de l'autre, et si l'autre en plus l'exprime à travers une parole de reconnaissance, c'est encore plus extraordinaire, parce que l'autre nous dit, sache que tu es à l'origine d'un bien-être, sache que tu es à l'origine d'un équilibre, et c'est quelque chose de génial. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée cette semaine, je rencontrais un monsieur qui bon, est dans le monde de ce qu'on appelle de la tech, et il donnait une conférence, et il me raconte qu'il y a quelqu'un au premier rang après la conférence qui lève la main, non pas pour poser une question, mais dire « je suis venu vous voir », et il se déplaçait de loin juste pour vous dire merci, parce qu'il y a 10 ans, on a eu une conversation qui aurait dû durer 30 minutes, qui a duré un peu plus, qui a changé ma vie et qui fait qu'aujourd'hui, voilà, je me retrouve avec une entreprise, etc., etc. Je voulais juste venir pour vous dire merci et pour vous dire ô combien ces mots que vous avez prononcés m'ont aidé à prendre les bonnes décisions et à construire quelque chose. Alors, c'est sûr que quand vous avez une reconnaissance au sens premier du terme, c'est génial. Mais je lui ai dit, s'il ne te l'avait pas dit de cette manière, mais que tu l'avais découvert, tu avais découvert que tu as pu être le support à sa construction. Il me répondait, mais rien que ça, déjà, c'est extraordinaire. Quelle joie, quel bonheur de voir qu'on est le support du bien-être de l'autre. Je racontais une autre anecdote qui m'est arrivée l'autre jour. J'arrivais pour donner un cours et puis je garais mon scooter. Et puis, je vois un parent qui traverse la rue avec deux petits, un petit dans une poussette et puis une petite fille de 3-4 ans. Et puis, vous savez, quand vous allez sur un scooter, un gros scooter comme ça, les enfants, ils vous regardent un petit peu. Vous êtes comme ça le grand personnage, là, le monsieur sur la moto. Et donc, vous voyez leur regard. Puis à ce moment-là, ben, je leur souris, je leur fais un petit coucou de la main. Et donc, dans leur imaginaire d'enfant, évidemment, le monsieur sur la moto, il m'a dit bonjour. Et vous voyez leur regard s'illuminer, un des deux qui vous fait comme ça un petit geste de main. Eh bien, ça vous nourrit, ça vous remplit. Parce que vous avez fait quelque chose, vous vous rendez compte que vous avez créé un moment de bonheur, un moment qui leur a apporté quelque chose. Eh bien, c'est comme ça qu'on construit une relation. C'est comme ça qu'on arrive à la mettre en place. C'est quand on réalise qu'on est le support du bien-être de l'autre, ne serait-ce qu'à travers un travail qu'on fait sur soi, pour ne pas être trop coloré, pour ne pas être trop revendicatif, pour ne pas être trop dur et trop difficile, et qu'on réalise que ce travail qu'on a fait sur nous-mêmes génère chez l'autre du bien-être, eh bien, on se sent profondément bien à l'intérieur de soi. Et donc, à ce moment-là, eh bien, il y a une relation de confiance qui peut se créer. Pourquoi? Parce que lorsque je vais demander quelque chose à l'autre, eh bien, ou que l'autre va me demander quelque chose, ce n'est pas pour créer la relation, parce que, tout simplement, elle existe déjà à travers ce que l'on a réussi à mettre en place. Voilà un petit peu ce que j'avais envie d'extraire, en tout cas de cet enseignement qui évidemment est beaucoup beaucoup plus vaste, la vache rousse, c'est énormément de choses. Je voulais juste m'arrêter sur ce petit point et se dire que peut-être on peut essayer de le mettre en pratique de manière extrêmement concrète.
Mais moi je pense que je vais pouvoir faire plaisir au Rav et à ceux qui nous écoutent. Je pense que ce que vous venez de décrire, ça existe hein, dans une large mesure dans la communauté. Moi je vois beaucoup de gens, alors c'est vrai qu'on a connu « je veux imposer à l'autre ». Avant le 7 octobre, on était devenus complètement fous, surtout en Israël. Fous. Mais sinon, je vois beaucoup de gens, non, mais je sais pas, nous, la radio, par exemple, le type, il vient te changer les lampes, mais c'est pour la radio, il est content de le faire. On voit ça, ça existe quand même. Parce qu'on est tellement...
Mais c'est extraordinaire,
ça, oui,
c'est sûr. Et quand on arrive à le faire, on se sent bien. Parce que c'est quelque chose d'extraordinaire de réaliser, comme vous dites très bien, de réaliser qu'on était le support du bien-être de l'autre. Et ça nous nourrit, ça nous construit intérieurement.
On est tellement plus heureux que quand on a été le support du malheur de l'autre, parce que finalement, ça, on s'est vengé, alors quoi, t'as gagné quoi. Mais c'est vrai, bon, parce qu'on est très critique, on est inquiets, en plus l'atmosphère est mauvaise partout. Mais non, moi je vois aussi beaucoup de gens qui...
Mais comme on dit,
vous voulez que je vous dise un truc grave, ne serait-ce que la façon de se sourire le samedi quand on passe dans la rue et qu'on voit quelqu'un, c'est clair qu'il va à la Sina et ce sourire là, mais c'est, il y a ça quand même, faut pas croire qu'il y a rien entre nous, il y a quelque chose, il faut
le
dire.
C'est sûr que ça existe,
quand ça va mal, faut le dire, ça va mal, mais il y a aussi, je veux dire, le monde hein, va mal, la France, Israël, mais il y a ça. Rav Elie Lemel, je vous remercie pour ces très belles paroles qui d'ailleurs nous nourrissent tous. et ils nous font du bien. En plus, des fois, on en parle à la table de Shabbat, entendu le cours de cet après-midi. Donc, c'est vraiment, c'est beaucoup de plaisir et de nachat ruach. Ravi le maître, je vous remercie. Bonsoir à vous et Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom. Merci.
Et nous sommes en ligne à présent à Jérusalem avec Rav Mordechai Biton. Bonsoir Rav Mordechai et Shabbat Shalom.
Shalom Aleichem, Shabbat Shalom à toutes et à tous.
Rav Mordechai, vous voulez vous aussi intervenir évidemment sur notre parasha Chukat, mais vous voulez vous interroger avec nous sur ce qu'on appelle les Chukim. Alors les Chukim, comme d'ailleurs on vient un petit peu de l'évoquer, c'est les commandements qui sont supposés ou qui sont incompréhensibles. Et vous allez nous dire dans un instant, vous pensez que ça pose des questions sur le rapport avec Dieu, faire des choses qu'on ne comprend pas. Mais ça pose aussi le rapport à l'intelligence humaine. Et au final, ça pose aussi des questions sur le rapport que nous avons, nous, avec tout ce qu'on ne comprend pas autour de nous, sur les phénomènes incompréhensibles. Donc on vous écoute avec énormément d'intérêt.
Oui, mon cher Bernard, alors on va se pencher donc sur cette parasha Chukat. Chukat signifiant « décret ». Un décret qui échappe à l'intelligence humaine dans ses fondements, qui ne s'impose pas d'emblée à l'intelligence humaine et dont la compréhension requiert d'aller chercher très très loin dans les couches les plus profondes de la Torah et parfois même requiert de l'autre part et bien, tout simplement d'attendre. Il y a un certain nombre de lois dont les secrets et les fondements et le sens nous seront complètement révélés au moment du dévoilement messianique. C'est la chouka, c'est ça ce qu'on appelle le chok dans la Torah. Vous savez qu'il y a deux types de mitzvot, deux types de commandements, les mishpatim, c'est-à-dire ces commandements qui s'imposent à l'esprit humain, et les chukim, qui ne s'imposent pas directement à l'esprit humain. Alors la parasha chuka donc, va nous parler de la loi de la vache rousse, cette fameuse vache qui doit être parfaitement rousse, qui n'a jamais porté de joug, et donc qui sera brûlée, les cendres sont mélangées à l'eau, et elle servira donc à rendre pure toute personne qui se serait rendue pure au contact d'un mort. L'impureté dont on parle ici étant une impureté rituelle, de type spirituel. Ce qui nous intéresse ici dans cette paracha, ce sont les premiers mots de la paracha. Quand la Torah va présenter cette loi de la vache rousse, elle va dire « Zot chukat haTorah ». Voici le chok de la Torah. La Torah aurait dû dire « Voici un chok, voici une loi qui est difficilement compréhensible, la loi de la vache rousse ». Ou alors elle aurait dû nous dire « Zot chukat haPara ». Voici une loi difficilement compréhensible concernant la vache, donc la vache rousse. Mais elle ne nous dit pas ça, la Torah. La Torah vient nous dire « Zot chukat haTorah ». On va te dire ici quelque chose qui a trait à ces lois qui sont profondément inintelligibles à l'esprit humain, mais qui ont un rapport avec toute la Torah. Qu'est-ce qu'on veut nous enseigner? Alors le Or HaChaim HaKadosh va répondre à cette question. Il va dire, en utilisant ces mots-là, Chukat HaTorah, en accolant ces deux concepts, le concept du Chok, cette loi incompréhensible à l'esprit humain, et la Torah, on veut nous dire que si on accomplit cette mitzvah, bien que ça soit quelque chose qui soit de l'ordre du roc, donc de quelque chose qui ne s'impose pas à l'esprit humain et donc qui requiert de notre part une soumission totale à Hachem, eh bien, la Torah va considérer que c'est comme si on avait accompli toute la Torah. Toute la Torah que Hachem nous a ordonnée. Pourquoi? Parce que l'observance de cette mitzvah, qui n'est pas intelligible à l'esprit humain, eh bien, elle justifie la émouna, la foi, et l'accord que notre psychisme et que notre âme donne à Hachem, Et donc, de ce fait, nous fait que nous allons accomplir les mitzvot. En fait, quand on accomplit cette mitzvah, c'est comme si on disait à Hachem, on prend ta Torah. Alors, c'est surprenant parce que j'accomplis la Torah lorsque je fais l'ensemble des mitzvot. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a de spécial, cette mitzvah-là? Et qu'est-ce que cette mitzvah, ce type de mitzvah, qu'est-ce qu'elle a de tellement particulier? Elle a particulier ceci. Lorsque je donne de la tzedaka, je suis très investi, en fait, dans... Du point de vue intellectuel, du point de vue moral, je trouve que c'est normal. Donner de la tzedaka, donner de l'argent aux pauvres, c'est tout à fait normal. C'est un acte d'altruisme, c'est un acte de justice sociale, c'est un acte de partage. Donc il y a ici quelque chose dans lequel l'esprit humain est investi. Et on peut, finalement, en accomplissant ces mitzvot, oublier en fait que ce sont des ordres d'Hachem. Et on peut finalement les justifier en disant bah, finalement que c'est l'ordre du monde de pratiquer la charité, la justice, en quelque sorte, de donner de l'argent aux pauvres. Mais quand on accomplit un roc, c'est-à-dire une loi dans laquelle l'esprit humain finalement ne peut pas tellement s'investir. Une loi à laquelle l'esprit humain ne peut pas tellement donner de justification. Par quoi je peux le justifier? Uniquement par le fait que j'accomplis la volonté d'Hachem. Et donc, en fait, ces lois, ces chukim, qui sont des lois que l'esprit humain ne peut pas justifier, elles laissent une place entière et complète à Hachem. Hachem occupe tout le terrain, en quelque sorte. Quand je fais une loi qui est intelligible du point de vue humain, je peux y mettre beaucoup d'ego, je peux mettre mon intelligence, ma chorma, et la justifier. Et comprendre que je vais la comprendre parce qu'Hachem me l'a demandé. Mais c'est en second rideau. Il va falloir que je fasse plus d'efforts pour comprendre d'abord que je l'accomplis parce qu'Hachem me l'a demandé. Par contre, ce genre de mitzvah-là, je ne peux les accomplir que pour une seule raison. Parce qu'Hachem les a donnés. Et c'est la raison pour laquelle la Torah va dire, au sujet de cette mitzvah, donc de la vache rousse, de brûler, d'utiliser les cendres et d'utiliser ces eaux pour donc rendre une personne pure, la Torah va dire, il s'agit ici d'un chok. Il s'agit ici de quelque chose, d'une loi dans laquelle l'esprit humain ne peut pas réellement trouver sa place. Elle est l'expression par essence de l'adhésion au projet divin. Le Kli Yakar, qui est un commentateur important donc, de la Torah, qui est l'élève du Maharal de Prague, lui va rappeler ce que Rashi dit au début de son commentaire, à savoir que les nations du monde vont nous attaquer sur cette mitzvah, en disant « mais enfin, vous faites des choses qui n'ont pas de sens ». Vous ne voulez vous intéresser de voler, de tuer, vous demandez la justice sociale, tout ça, ça se comprend, mais qu'est-ce que vous faites avec une vache rousse? Qu'est-ce que c'est que ces lois? Ne pas mélanger le lait et la viande, c'est la même chose, d'accord? Ne pas porter de vêtements de lin et de laine, c'est la même chose aussi, c'est un roc, d'accord? Et puis là aussi, ce cérémonial de la vache rousse. Et là, les nations du monde vont nous attaquer sur ces mitzvot, en disant que finalement, notre Torah nous demande des choses un petit peu folles. Et là, on va leur répondre en leur disant, sachez que si nous accomplissons cette mitzvah, c'est parce que Dieu l'a ordonné. Et c'est la seule unique réponse qu'on peut donner. C'est parce que Dieu l'a ordonné. Alors il y a ici un point qui est un point tout à fait fondamental. Il y a deux niveaux ici. Il y a d'abord notre rapport avec Hachem, notre rapport intelligence humaine. Le rapport avec Hachem ici est un rapport d'adhésion absolue. Il faut préciser aussi au départ que en fait, Rashi lui-même va expliquer que la vache rousse, elle est la maman du veau. Or les bénis Israël, les enfants d'Israël, ont fauté avec le veau d'or. Il nous dit que la maman va nettoyer les bêtises du petit. C'est une manière de nous dire que quand les bénis Israël ont fait le veau d'or, la faute du veau d'or, ils ont voulu en quelque sorte s'emparer de la sagesse divine et décider à la place de Dieu de la manière de le servir, en inventant un service divin. Et donc on sait comment ça a tourné. Et c'est la faute suprême. On ne peut pas inventer une religion à la place de Dieu. La Torah, nous l'avons reçue au cours d'une rencontre avec Hachem. Et par définition, le juif est d'abord là dans le monde pour témoigner de la pertinence de cette loi, par ce qu'il accomplit, et pas pour inventer en quelque sorte des religions. Et donc là, ici, il y a, dans la relation avec Hachem, une confiance absolue dans la chorma, dans la sagesse de cette loi. Et il faut répéter ici quelque chose qui est très étonnant, c'est qu'en fait, le secret de ces lois a été révélé en partie à Shlomo HaMelech et à Moshe Rabbeinu, pas complètement, en tout cas pour ce qui est de Shlomo HaMelech, puisqu'il le dit lui-même, mais d'une certaine manière, il y a dans les couches les plus profondes de la Torah, une possibilité quand même de comprendre la pertinence et la logique de ces lois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, dans les rapports avec les nations du monde qui vont nous interroger, voire nous agresser par rapport à ce genre de loi, là, il y a un rapport avec l'intelligence humaine. Et c'est une manière de nous dire, on ne peut pas faire complètement confiance à l'intelligence humaine. L'intelligence humaine ne peut pas tout expliquer. Elle ne peut pas tout comprendre, elle ne peut pas tout saisir. Quantité de phénomènes politiques, sociologique, historique, scientifique, naturel, se déroule sous nos yeux sans qu'on ait la possibilité de les appréhender complètement. Et il y a là, ici, une exigence de la part de la Torah. Référez-vous à tout ce qui se passe dans le monde du point de vue politique, sociologique ou dans les lois de la nature, comme on pourrait se référer aux chukim, c'est-à-dire à des choses, à ces lois dites incompréhensibles sur l'esprit humain. Comprenez qu'il y a une intelligence divine qui gère le monde, et qui ne le gère pas selon vos desiderata et vos pensées et vos idéologies. Comprenez même que la Torah est finalement, dans toutes ses dimensions, des plus compréhensibles, entre guillemets, jusqu'aux plus incompréhensibles, en vérité, la Torah est un roc, parce que la Torah exprime cette idée que finalement, nous ne pouvons pas toujours comprendre la manière dont Hachem intervient dans le monde. Et là, ici, un petit clin d'œil aussi à notre actualité. Je vais vous rappeler que quand le Talmud a été brûlé à Paris en place de grève, les rabbanim se désolaient de cela, et en rêve, est venue en rêve une parole divine qui s'est révélée à Rabbi Yechiel de Paris, il a dit « Zot Rukata Torah ». Sache, « Zot Rukata Torah », c'est une xéra de Oraita, comme le dit le Targum Montkolos, c'est une décision de la Torah. Il y a ici un décret que tu ne peux pas comprendre. Le Talmud est brûlé en place de grève. Personne ne comprenait vraiment pourquoi. On comprendra plus tard que c'était suite à la marloquette, à la dispute qu'il y avait entre Rabbeinu Yonah et des sages français. Mais ça ne suffisait pas à tout expliquer. Les divisions du peuple juif ne suffisaient pas à expliquer l'agressivité des chrétiens et le fait que tout avait été brûlé. Il y avait là ici une décision dans le processus divin qu'on ne peut pas comprendre. Et c'est la même chose que ce qu'on vit aujourd'hui. Tout le monde est complètement affolé par ce qui se passe en France. On est dans l'incertitude ici en Israël. En fait, Hachem nous dit, vous ne pouvez pas tout contrôler. Et sachez que vous ne pouvez pas tout contrôler. Alors qu'est-ce que vous devez faire? Vous devez continuer à vous battre. Mais avant toute chose, de quel point de vue vous vous battez? Du point de vue du fait que c'est moi qui conduis l'histoire. Et acceptez ce fait-là, je conduis l'histoire. Alors revenez au Beit HaMidrash, revenez à l'étude, revenez à la synagogue, revenez aux catégories qui sont les catégories habituelles du peuple juif, et là vous comprendrez un petit peu mieux le sens de votre présence dans le monde et ce que vous avez à y faire. C'est un des secrets de la Parashat Roukat.
Rav Mordechai Biton, merci à Jérusalem et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Et nous sommes en ligne à présent avec Rav Gué. Bonsoir Rav Gué, Shabbat Shalom.
Bonsoir et Shabbat Shalom.
Rav Gué, alors vous voulez revenir sur la personnalité de Bilam, j'ai presque envie de dire, évidemment. Mais alors, pas pour le comparer avec Balak, plutôt pour le comparer avec Avram. Alors là, c'est déjà un peu surprenant. Mais vous allez nous expliquer, en fait, de ce que je crois comprendre, que l'idée, c'est que il avait quand même une perception incroyable de Dieu, et il en a fait le contraire du message. Il en a fait le contraire de ce qu'on attendait de lui, et on pourra dire ensuite le contraire de Moshe Rabbeinu, donc du message de la Torah. Donc ça fait beaucoup de grands personnages. Mettez-nous un peu d'ordre dans tout ça et expliquez-nous, Rav Gué.
Oui, effectivement. Alors d'abord, le comparaison avec Abraham, ça fait par la Mishnah dans Pirkei Avot, chapitre 5. À la fin de ce chapitre, on parle des Talmidim, des élèves de Bilam et des élèves d'Abraham, en disant que les élèves d'Abraham sont dotés de toutes les qualités morales, alors que ceux de Bilam, pour la faire courte, ont trois défauts principaux, la cupidité, l'arrogance et une certaine attirance vers des passions, on va dire, très matérialistes. Et donc, c'est vraiment des personnages non fréquentables. Et ce qu'on ne comprend pas, c'est que finalement, Abraham d'abord, effectivement, dit le Maharal, le Roche, le chef de la tête, le père de la nation juive, de tout le judaïsme, de toute notre histoire, puisqu'il est le père du monothéisme, il est notre ancêtre, par exemple, donc Yitzhak et Yaakov. Et donc, on le compare à Bilam, qui est Roche à Oumah, le chef des nations. Et pourtant, effectivement, on voit une différence pas de détail, une différence fondamentale au niveau de leur façon de se comporter. Abraham étant l'exemplarité à tous les niveaux, et Bilam exactement le contraire. On compare également Bilam à Moshe, puisqu'on nous dit qu'au niveau prophétie, le seul comparable à Moshe, c'est Bilam. Donc là encore, on est très choqué. Comment se fait-il qu'un homme doté d'une prophétie, d'un niveau de prophétie si élevé, si extraordinaire, donne effectivement un personnage aussi vil, aussi désastreux en termes de relations avec les hommes, avec le monde en général, que Bilam. On a un principe dans le judaïsme que la relation avec Hachem, avec Dieu, nous donne la chose suivante. Maru rachum, af ata rachum. De la même façon que Dieu est miséricordieux, tu dois l'être. Ça s'appelle dans la Torah, vehalachta bidrachav, suivre les chemins, c'est-à-dire prendre exemple sur Dieu et faire ce que Dieu fait. Dieu est notre Père, celui qui doit être, on va dire, auquel on doit ressembler. Et Bilam, qui est très proche de Dieu, finalement, puisqu'il a une prophétie du niveau de Moshe, enfin, comparable à celle de Moshe, il est finalement un homme qui enseigne le contraire, qui montre le contraire, qui est cupide, qui est très, très sensible à ses honneurs, à son honneur, et qui, qui a une relation avec son ânesse. En fait, c'est simplement quelque chose d'inimaginable. Alors en fait, c'est quelque chose de très important à comprendre. Le fait d'avoir intellectuellement une perception de choses très profondes et très belles ne garantit pas chez l'homme un haut niveau dans sa pratique et sa façon d'être. Bilam, en fait, il a utilisé cette connaissance de Dieu et cette intelligence, cette perception du vrai, hein, et il avait la perception du vrai, il l'a utilisé à des fins totalement, on va dire, destructrices. Par exemple, lorsque Balak vient le chercher, il fait une allusion au fait qu'il attend beaucoup d'argent pour être payé, pour maudire le peuple juif. Et donc, il utilise ses dons pour tout simplement obtenir des faveurs. Effectivement, c'est le contraire de ce que la Torah veut. Notre perception du vrai doit nous donner envie d'adhérer au vrai, de nous rapprocher du vrai. Effectivement, on trouve dans l'histoire moderne, et ça je cite mon maître Rav Leveux qui le dit souvent, comment se fait-il que la Shoah a pu se réaliser, a pu se faire par un peuple comme le peuple allemand qui avait des qualités incroyables. Ils avaient les plus grands philosophes, les plus grands auteurs dans la littérature, des grands auteurs, ils avaient des scientifiques, en bref, ils avaient le top dans tous les domaines, c'était la référence, et ils se sont transformés en quelques années en un peuple immonde, il n'y a pas de mot pour décrire ce qu'ils ont fait, et tout le monde le sait, mais comment se fait-il que ça s'est fait dans le peuple le plus éclairé a priori? Et le Rav nous a dit quelque chose de très important, il nous dit qu'en fait, l'homme est composé de trois parties principales. Ces trois parties se trouvent dans le mot Melech. Melech, c'est le roi. Vous prenez la première lettre du mot Melech, c'est Moach. Moach, c'est le cerveau. Puis après, vous prenez la deuxième lettre. Et la Med, c'est le lève, le cœur. Et vous prenez la troisième lettre, c'est le Chaf, qui veut dire Kaved. Kaved, c'est le foie. Donc cerveau, cœur et foie. Alors ça symbolise trois choses. Le cerveau, l'intellect. Le cœur, la sensibilité, et Kaved, le foie, c'est donc le sang, il y a beaucoup de sang dans le foie, et donc l'action. Donc on parle de pensée, de ressenti, de sensibilité et d'action. Et en fait, l'homme, pour se construire, il faut qu'il ait une perception du vrai, c'est ce qu'avait également Bilam. Mais le problème de Bilam, c'est que cette perception du vrai n'était pas du tout reliée au reste du corps, c'est-à-dire en face de ce qu'il était, c'est-à-dire du cœur et de l'action. Il savait Dieu, il comprenait Dieu, mais quand il utilise cette connaissance de Dieu pour maudire le peuple juif. Et Dieu, dans sa grande miséricorde, ne se met pas en colère pendant toute cette période, puisque Dieu se met en colère tous les jours, quelques instants. Et j'explique toujours ça de la façon suivante, ça veut dire quoi que Dieu se met en colère tous les jours? C'est que, vous le savez tous, lorsque vous avez des enfants en bas âge, ou d'ailleurs même des enfants un peu plus grands, vous êtes professeur dans une classe, vous vous montrez que de la gentillesse et de la compréhension et de la douceur, vous savez qu'à un moment, vous allez vous faire marcher dessus. Et à un moment, il faut mettre un peu de dîme, un peu de rigueur, un peu de fermeté, pour que vous ayez, on va dire, un peu de sérieux, de tenue dans votre classe, dans votre famille. Donc, Akadosh Baruch Hu envoie des instituts de dîme, de rigueur, pour que le monde se retienne. Mais dès que, pendant cette période, Dieu ne s'est pas mis en colère. Parce que si j'étais mis en colère, Bilam aurait capté cet instant de colère et il aurait détruit le peuple juif. Mais en utilisant quel mot? Demande Tosso, demande Agma, Kalem. Kalem, c'est un mot très court. Comme la colère de Dieu est très courte, il fallait trouver un mot très court. Et Kalem, ça veut dire détruire. Alors faites attention, c'est les mêmes lettres que le mot Melef. Sauf que c'est mis dans un autre ordre. Chas, Lamed même. Kaved, lève moar. Dans le sens inverse. Et ça veut dire quoi, tout simplement? C'est que celui qui ne sait pas faire en sorte de donner à son cerveau, à son intellect, à sa compréhension du vrai, la malchoute, c'est-à-dire d'être celui qui va le diriger, qui va l'orienter dans la vie, et qui fait le contraire. Kaved, ça veut dire qu'il réagit sur place parce qu'il a été énervé, on l'a embêté. Il réagit avec colère, par exemple. Il a le sang chaud, comme le kaved qui est le sang. Puis après, une fois qu'il a réagi de façon complètement, on va dire, regrettable, eh bien, il essaie de trouver des justifications à son acte, et de par sa sensibilité, son lève et son moire. Après, il essaie de justifier ses actes catastrophiques à travers des principes qui n'ont absolument rien à voir, mais qui sont simplement une façon de se laver la conscience et de justifier un acte qui est injustifiable. C'est Kalem par rapport à Melech. Abraham et Moshe, ce sont des Malachim, ce sont des gens qui ont su garder la tête froide, c'est-à-dire de garder leur cap, connaître la vérité, et faire en sorte que cette vérité se réalise et se concerte, soit comprise et soit ressentie, puis aussi soit réalisée dans les actes, Et ça, c'est la cohérence des grands d'Israël, Abraham et Moshe. Et d'ailleurs, le verset nous dit que lorsque Moshe est venu sauver les Juifs d'Égypte, il a mis donc sa famille sur un âne. Et on a dit que c'est l'âne utilisé par Abraham pour sauver, pour emmener l'Akedat Yitzhak, emmener son fils Yitzhak pour l'Akedat Yitzhak. Donc cet âne est amené par Moshe pour sauver l'Israël. Et c'est le fameux âne du roi Mashiach qui viendra sur un âne blanc. Vous savez, alors cet âne, qui a une très, très longue vie, dit le Maharal, c'est pas un âne, évidemment, c'est la capacité d'être rochev al hamor, c'est-à-dire de chevaucher la matière. Abraham chevauche la matière, c'est-à-dire il la maîtrise totalement. Moshe également, et le Mashiach, ce sera aussi la même chose. Abraham, Moshe, Mashiach, c'est évidemment tout un programme qui va de l'aube de notre histoire jusqu'à la fin de notre histoire. Par contre, qu'est-ce qu'il a, Bilam ? Bilam, il n'a pas un âne, il a une atone. Atone, c'est une ânesse avec laquelle il a des relations. Et donc, en fait, c'est non pas quelqu'un qui est rocher, qui chevauche, qui domine. Mais au contraire, il est au même niveau. D'ailleurs, l'ânesse lui parle. L'ânesse lui parle, il discute avec elle, comme si c'était normal, pour nous dire qu'en fait, cet homme, il a la tête dans les cieux. Malheureusement, il n'a que la tête dans les cieux. Tout le reste de son corps est très, très, très attiré par les choses de ce monde. Et finalement, sa vie est une contradiction permanente. Il parle à Dieu, mais finalement, il n'est absolument pas un exemple. Tout le contraire, il parle à Dieu, mais Dieu ne le supporte pas. Vaïkar, c'est-à-dire qu'Hachem, il parle par forcé, avec froideur, parce que Hachem s'est dit, je ne peux pas demander au peuple du monde, et je ne peux pas leur reprocher de ne pas être ce qu'ils sont s'ils n'ont pas de prophète. Donc je leur donne un prophète et on voit la catastrophe que ça donne. Ils comprennent qu'en fait, dans le monde, il n'y a rien à faire. Si un homme veut se construire, c'est ça mon message. Un homme qui veut se construire, même s'il a une perception du vrai, qui est très forte, il n'est pas évident déjà, il n'y a que la pratique et la solution de la Torah, les 613 mitzvot appliquées avec rigueur et avec ouverture et avec chaleur, c'est-à-dire avec le cœur et avec le kaved, avec le froid, et associé évidemment à la tête, au cerveau. Si on arrive à faire ce lien et appliquer les lois de la Torah, alors on est préservé. Et si on n'a pas tout ça, eh bien, qu'est-ce qui se passe? On a la Shoah. Des gens qui ont des grands cerveaux, qui sont des grands scientifiques, des grands philosophes, ils ont aussi une grande sensibilité, ce sont des grands artistes, ils habitent en Allemagne, ils ont un cœur extraordinaire, ce sont des hommes qui ont de la technologie, le kaved, et finalement, entre toutes ces forces et toutes ces choses, il ne se passe rien, il n'y a pas de connexion, il n'y a pas de programme, il n'y a pas d'organisation, il n'y a pas de cadre, ça donne des monstres. Et des monstres encore plus dangereux, parce que justement, ils ont de l'intelligence, et ils sont capables, par cette intelligence et cette capacité aussi technique, d'organiser des usines de la mort, comme nous l'avons malheureusement connu il y a quelques dizaines d'années. Tout simplement, nous rappeler, chers amis, que sans un encadrement de tout ce que nous sommes, c'est-à-dire de ce que nous sommes en tant qu'hommes, c'est-à-dire le moir, le lèvre et le kaved, le cerveau, l'intellect, la sensibilité et l'action, tout cela n'est pas cadré, n'est pas organisé par cette force que représente la Torah, malheureusement, on peut tomber dans des extrémités terribles, telles que la Bilam ou telles que la Shoah. Donc, sachons tous être vigilants et nous apprendre à dire que simplement faire des grands discours philosophiques est une chose, c'est très important de bien comprendre les choses et les apprendre avec beaucoup d'exigence, mais cela doit être associé à une pratique et à une sensibilité. Et si on a tout ça, alors on peut créer des grands hommes comme Abraham et Moshe. Et si on n'a pas, bien on a des Bilam et on a la Shoah. Voilà un petit peu mon message. Et je souhaite à nous tous un Shabbat Shalom.
Mais vous savez qu'on dit aussi en français, il est sanguin. Et c'est pas bon d'être sanguin. Et en vous entendant, je me disais, alors vous avez dit, même la Medraf, et moi j'ai dit, la main. Mais non, apparemment, les sages, ils ont choisi le foie. Donc, ils ont choisi sanguin. Donc, il ne faut pas être sanguin, on a compris. Ou alors, on essaye de le transformer dans quelque chose de positif. Rav Gueh, je vous remercie. Et Shabbat Shalom.
Shabbat Shalom.
Voilà, cette émission est à présent terminée. Merci d'y avoir prêté attention. Excellente soirée à tous. Et c'est à mon tour de vous souhaiter Shabbat Shalom. Shalom leivoy naboy, Yom Hashem lo yishmarihi, Shav shokat shoy mai, Yom Hashem lo yirne bayis. Shalom leivoy naboy, Yom Hashem lo yishmarihi, Shav shokat shoy mai.